Allô tout le monde et bienvenue au balado 9-1 Behind the Scene, le balado québécois qui met en lumière le métier de répartiteur d'urgence. Si c'est votre premier épisode, ben je me présente. Je m'appelle Marie-Ève, hôte de ce podcast et répartitrice 9-1 depuis 8 ans et demi. Pour ceux que c'est pas leur première fois, je suis contente de vous retrouver. J'étais encore partie en voyage, mais cette fois-ci, j'étais au Mexique, à Tulum. J'en ai profité pour faire un peu de recherche puis écrire, mais je vous avoue que j'ai quand même plus profité du soleil que d'autres choses. J'ai l'air de voyager souvent, mais le dernier a été fait vraiment dernière minute pas mal. J'avais besoin d'y aller toute seule. Puis, ben, je suis curieuse, dans le fond, est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimez voyager, genre toute seule? Écrivez-moi donc sur le groupe Facebook. J'aimerais ça savoir, puis aussi savoir c'est quoi les meilleurs pays que vous avez visités. Je vous l'ai jamais dit, mais mon rêve ultime, ça serait de voyager partout dans le monde, puis d'aller habiter où je veux. Mais là, pour l'instant, on va se concentrer sur le true crime. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites dans ma vie personnelle, dans les derniers mois, je dirais, que j'ai pris le temps de gérer tout ça. Je suis allée une étape à la fois. Ça sert à rien de vouloir tout faire en même temps, tout régler. Tu fais juste éparpiller. Fait que ceci étant dit, je dois souligner qu'on est presque à 800 abonnés sur le groupe Facebook, puis plus de 2700 sur Instagram. Je capote. C'est tellement nice. Merci tellement de m'encourager puis d'être là. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on rentre dans le plus hardcore qui existe, selon moi. Donc, méga avertissement. L'épisode d'aujourd'hui contient des sujets tels que le décès d'un nouveau-né et de violences faites envers une femme enceinte. Il va y avoir des détails assez graphiques dans l'épisode, puis pour ceux et celles qui ont une curiosité, disons, un peu malsaine, je mettrai des photos de la scène sur Patreon. En passant, n'oubliez pas de vous abonner au Patreon pour rien manquer et avoir de l'exclusivité. Savez-vous c'est quoi le site internet Craigslist? Pour ceux qui savent pas, Craigslist c'est un site internet américain de petites annonces comme nous avec Kijiji au Québec. Craigslist a été fondé par Craig Newmark en 95 à San Francisco. Par contre, ce site-là ne sert pas seulement à vendre des sofas ou mettre un appartement en location. Il peut aussi servir à vendre du linge qu'on veut plus porter ou du linge de bébé qui fait plus. Certaines personnes s'en servent même pour offrir des services sexuels. Puis on peut y retrouver aussi beaucoup de gens mal intentionnés, comme un peu partout sur Internet de nos jours. Heureusement, c'est pas la majorité, mais malheureusement, pour l'histoire d'aujourd'hui, c'est tout le contraire qui s'est produit. On va retourner en 2015. Michelle Wilkins avait 26 ans, puis elle vivait au Colorado, aux États-Unis. Son mari et elle attendaient leur premier enfant. C'était une grossesse surprise, mais les deux se connaissaient depuis très longtemps avant de former un couple, fait qu'ils n'étaient pas inquiets pour la suite. Michelle, elle savait qu'elle allait être une bonne mère, puis les deux avaient vraiment hâte. Elle a eu une belle grossesse, tout se passait bien, puis sans difficulté. Ils attendaient même une petite fille qu'ils avaient déjà prénommée Aurora. En mars 2015, Michelle était à 7 mois de grossesse. Elle avait eu son baby shower et un beau photoshoot de maternité. Un soir, pendant qu'elle naviguait sur Internet, elle a vu une annonce concernant un lot de vêtements pour femmes enceintes. La personne qui vendait le lot avait inscrit que la raison de la vente, c'était que les vêtements étaient rendus trop petits pour elle. Elle s'est dit qu'elle n'en avait pas de besoin, puis qu'elle avait déjà tout ce qu'il lui fallait, mais quelques morceaux de vêtements feraient pas de tort, étant donné qu'elle grossissait à vue d'œil. Il en restait pas pour longtemps de toute façon. Elle lui a quand même écrit pour avoir plus d'informations. Le lendemain matin, elle a changé d'idée, puis elle a juste comme supprimé son message. Elle en avait pas de besoin. Mais la personne qui vendait l'eau a eu le temps de voir le message de Michelle, fait qu'elle lui a quand même répondu. Cette femme-là s'appelait Danielle Lane, puis elle avait 34 ans. Quand Michelle a vu la réponse de Danielle, elle était déjà en train de faire des commissions à l'extérieur, donc elle s'est dit, ben, pourquoi pas arrêter en passant. Michelle est arrivée vers 11h51 au 1620 Green Place, une petite maison de ville. Elle a texté Danielle pour lui dire qu'elle était à l'extérieur pour qu'elle vienne lui ouvrir la porte. Mais qui était Danielle Lane? Danielle était une femme de 34 ans qui vivait à Longmont, au Colorado. Elle avait été mariée à Jason Cruz pendant 12 ans. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Le 2 juillet 2002, alors que leur 3e enfant, Michael Alexander Cruz, avait 19 mois, il jouait dehors avec l'une de ses grandes sœurs pendant que Danielle faisait des trucs dans la maison. Quand elle sortait à l'extérieur, elle a retrouvé son petit garçon noyé dans la piscine du voisin. Rien laissait croire à un acte criminel, il s'agissait simplement d'un triste accident. Après la mort de son bébé, Danielle a eu recours à une hystérectomie, une chirurgie qui consiste à enlever l'utérus. Elle et Jason voulaient plus avoir d'enfants, c'était terminé. En 2007, Danielle et Jason ont décidé de divorcer après une décision mutuelle. Par contre, les documents de divorce démontrent que son ex-mari a déjà été arrêté pour voie de fait au troisième degré après que la tête de Danielle a été frappée dans une porte de voiture suite à un argument. Mais Danielle a jamais voulu porter plainte. Après leur séparation, Danielle devait trouver un endroit où vivre avec ses filles. Puis elle a vu une annonce sur Craigslist d'un certain Robert Walsh qui cherchait un ou une coloc pour vivre avec lui et sa fille. Danielle lui a envoyé un message, puis Robert s'est dit que ce serait possiblement positif pour sa fille de vivre avec une figure maternelle puis deux autres filles de son âge. Danielle est emménagée avec ses filles, puis la cohabitation allait super bien, puis leur relation était simplement amicale. Robert a décrit Danielle comme étant une femme douce, aimable et drôle. En ce qui concerne la mort de son garçon, ça lui arrivait d'en parler, mais ça semblait pas l'affecter dans son quotidien. De 2010 à 2012, Danielle a travaillé comme aide-soignante. Elle est revenue un soir à la maison, puis elle a dit à Robert qu'elle avait été suspendue. Mais lui a su plus tard qu'elle avait menti, elle avait plutôt été congédiée. Quelques temps après, les policiers sont venus frapper à la porte de Robert pour lui parler de son ex-femme, mais c'est Danielle qui a ouvert la porte. Quand les policiers lui ont posé des questions, puis qu'ils l'ont identifiée puis enquêté, ils ont remarqué qu'elle avait un mandat d'arrestation démis contre elle pour ne pas s'être présentée à la cour suite à une infraction au code de la sécurité routière. Les policiers ont emmené Danielle au poste de police, puis Robert est venu payer sa caution. Un peu de temps après, ils ont décidé de plus cohabiter ensemble, puis Danielle a quitté la maison. La dernière fois que Robert a vu Danielle, c'était un an après, soit en 2013. Il l'aurait vu à une station-service pendant qu'elle mettait de l'essence, puis elle avait l'air d'être enceinte de plusieurs mois, puis elle avait l'air très heureuse. Pourtant, c'est seulement en 2014 que Danielle a rencontré son nouveau copain David Ridley. Ils ont emménagé ensemble rapidement, puis Danielle travaillait toujours pas. Dès le début de leur relation, Danielle a expliqué à David qu'elle pouvait plus avoir d'enfants étant donné qu'elle avait plus d'utérus. Puis ça convenait amplement à David parce que lui aussi avait déjà une fille. C'est pourquoi il était extrêmement surpris quand Danielle lui a annoncé qu'elle était enceinte. Il savait qu'une femme pouvait quand même tomber enceinte après une hystérectomie, mais que c'était vraiment très rare. Il a demandé Danielle en mariage un peu de temps après, puis il a dit, elle lui a dit qu'ils attendaient un garçon, puis ça le rendait fou de joie, il était vraiment heureux. La date d'accouchement était prévue pour novembre 2014. Danielle postait des selfies d'elle puis son échographie sur les réseaux sociaux au fur et à mesure que la grossesse avançait. Mais David a commencé à se douter de quelque chose parce que il pouvait rarement aller au rendez-vous chez le médecin avec elle. Puis quand Danielle acceptait puis qu'il pouvait y aller, les deux pouvaient attendre des heures dans la salle d'attente. Jusqu'à ce que Danielle s'énerve puis finisse juste par quitter. À la fin du mois de novembre, Danielle avait toujours pas accouché. Ce qui a ajouté encore plus aux doutes de David. En janvier 2015, Danielle a mis un post sur Facebook comme quoi elle avait accouché d'un garçon. David a texté ses amis puis sa famille pour leur dire que Danielle mentait. Qu'elle n'avait jamais accouché. Il a même dit à un de ses amis, en le textant, que Danielle avait rendez-vous le 16 janvier, puis qu'il en allait avoir le cœur net enfin. Il a quand même décidé d'y laisser une chance. Quand le 16 janvier, leur machine à laver a bizarrement brisé, puis il y avait un des godots. Puis juste avant de partir, Danielle a glissé, puis elle est tombée, donc ils ont remis le rendez-vous au 18. Tard dans la soirée, Danielle a mis une annonce sur Craigslist, comme quoi elle donnait du linge de maternité, puis une certaine Michelle Wilkins lui a répondu. Donc on retourne au 18 mars 2015. Danielle a invité Michelle à entrer, puis la première chose que Michelle a pensé, c'était que Danielle avait pas l'air d'être 9 mois enceinte. Ils ont parlé pendant une heure de temps, de tout et de rien, de leur mari, de leur grossesse. Michelle a le même caressé le petit lapin de Danielle. Finalement, Danielle lui a demandé quelle grandeur qu'elle portait, puis elle lui a mis les morceaux de linge dans un sac. Michelle était dans l'entrée, puis elle voulait quitter, mais Danielle semblait pas trop comprendre le non-verbal. Puis elle lui a finalement dit « Ah, j'ai du linge de bébé-fille aussi à donner. J'en avais reçu avant de savoir que j'allais avoir un garçon, puis ils sont dans le sous-sol. Les veux-tu? » Michelle avait un drôle de pressentiment, puis elle avait déjà tout ce qu'elle avait de besoin, mais elle a accepté quand même parce qu'elle voulait pas avoir l'air d'être impolie. Danielle a descendu, puis elle semblait chercher le linge, puis Michelle l'a suivi en restant dans les marches. Michelle a fini par dire « T'as vraiment une belle maison, mais tu sais, je dois y aller. » Elle s'est retournée pour remonter, puis Danielle l'a suivi, puis elle lui a soudainement donné un gros coup de bâton. Elle lui a soudainement donné un gros coup dans le dos. Surprise! Michelle lui a demandé si elle avait eu une araignée dans son dos. Puis là, Danielle a répondu « Oui, je pense que je l'ai eu. » Michelle était comme « Ok. » Mais Danielle a continué de frapper Michelle. Michelle lui a dit « Qu'est-ce que tu fais? » Puis tout en continuant de la frapper, Danielle a répondu « Pourquoi tu viendrais chez quelqu'un puis tu lui ferais ça? » ce qui faisait aucun sens, parce que c'était elle qui était en train d'agresser Michel. Les deux se sont débattus jusque dans la salle de bain, puis Denelle a emmené Michel dans la chambre de l'une de ses filles. Il était encore dans le sous-sol. Denelle n'arrêtait pas de dire « je vais appeler la police », mais Michel a sorti son téléphone cellulaire, puis elle a dit « non, c'est moi qui vais l'appeler la police ». Mais Denelle l'a poussé sur le lit, puis elle a mis un oreiller sur le visage pour pas qu'elle respire. Michel essayait de prendre des grandes respirations, mais elle en était incapable. Denelle a finalement enlevé l'oreiller, puis Michel lui a demandé pourquoi elle faisait ça. Denelle a pris la... je sais pas comment traduire, la lavalamp, la lampe de lave. Moi, j'avais ça quand j'étais jeune, comme une lampe que quand tu l'allumes, ça fait des bulles. Elle a pris, puis elle a cassé sur la tête de Michel. Elle a dit « je comprends pas pourquoi tu fais ça, je t'aime ». Comme Michel, de son plein gré, a dit à Denelle qu'elle l'aimait, comme pour lui dire que ben qu'ils étaient deux êtres humains égaux, puis qu'elle avait rien contre elle, qu'elle avait pas besoin de faire ça. Denelle, elle a soudain pris un morceau brisé de la lampe, puis elle a poignardé Michel dans le cou. Elle a dit « si tu m'aimes, tu vas me laisser faire ça ». Elle a ensuite continué à l'étrangler avec ses mains, puis Michel se souvient qu'elle se disait qu'elle voulait simplement survivre pour Aurora, et elle a finalement perdu connaissance. Denelle est allée à la cuisine, puis elle a pris deux couteaux. Elle est retournée au sous-sol, où Michel gisait, puis elle lui a fait une grande incision de la hanche gauche à la hanche droite. Elle a retiré Aurora du ventre de sa mère, elle l'a pris, puis elle est partie en courant. Elle a placé le bébé dans le bain, face contre terre, parce que son fiancé allait revenir bientôt à la maison. Elle est retournée pour aller nettoyer la chambre de sa fille, puis elle a vu que le sang avait pénétré dans le matelas et le tapis, donc elle a pris les draps, elle les a mis dans la laveuse. Elle a pris les oreillers, elle les a mis dans un sac à poubelle, puis elle les a cachés en dessous d'une bassinette. Elle a enlevé ses vêtements, sauf ses sous-vêtements, elle les a mis dans un sac à poubelle aussi, ainsi que d'autres items remplis de sang. L'un des couteaux était resté dans la chambre, et l'autre avait été mis dans le lavabo de la cuisine. Denelle a remarqué que David n'était pas revenu à la maison encore, et elle l'a appelé deux fois, mais il n'avait pas répondu. Elle a envoyé un message texte disant « Pourquoi tu réponds pas? » Puis elle a rappelé à 14h04, puis a finalement répondu. Elle lui a demandé s'il pouvait arrêter à l'école des filles pour remplir des papiers, puis a accepté. Elle a raccroché, ça lui donnait encore plus de temps pour pouvoir nettoyer la maison. David aurait dit plus tard que Denelle avait l'air calme au téléphone, puis que rien ne laissait croire qu'elle venait de commettre un acte aussi horrible. Je vais vous lire une partie du rapport de police que j'ai traduit. Alors que les agents étaient encore sur place, un résident de la maison est arrivé. Il s'est identifié comme étant David Ridley, né en 79. Il a déclaré que lui et sa femme Denelle vivaient à cette adresse avec les deux adolescentes de Denelle. David a déclaré qu'il avait quitté le travail tôt aujourd'hui et qu'il était arrivé à sa résidence vers 14h15. Il prévoyait emmener Denelle à un rendez-vous de contrôle prénatal. Il arriva à la maison et descendit les escaliers vers le sous-sol. Ce faisant, Denelle a marché au coin de la rue couverte de sang. Elle a dit à David qu'elle venait de faire une fausse couche et que le bébé était dans la baignoire à l'étage. David a couru à l'étage jusqu'à la salle de bain puis a trouvé un petit bébé allongé dans la baignoire. Il frotta légèrement le bébé, puis le retourna pour l'entendre et le voir prendre une respiration haletante. David enveloppa le bébé dans une serviette et redescendit en courant. Il a dit à Denelle de se préparer pour aller à l'hôpital. Alors que Denelle et David se dirigeaient vers la voiture de David, une Ford Focus argent, Denelle a saisi le portable de David dans son camion en disant qu'elle allait appeler le 911. David a entendu Denelle parler à quelqu'un au téléphone qui supposait être les communications d'urgence de la ville de Longmont. Denelle a ensuite remis le téléphone dans le camion. Ils ont tous les deux voyagé à l'hôpital. Et quand ils sont arrivés à l'hôpital, David a escorté Denelle dans la salle d'urgence en tenant le bébé. Quand David et Denelle sont arrivés à l'urgence vers 14h47, Denelle pleurait puis criait « Sauvez mon bébé, sauvez-le! » Le personnel médical est accouru puis ont pris la petite en charge. Ils ont voulu examiner Denelle parce que clairement, elle était blessée, mais elle voulait rien savoir puis elle voulait juste qu'il s'occupe de son bébé à la place. Finalement, et malheureusement, le bébé a été déclaré décédé et Denelle et David ont pu avoir un moment avec leur, en parenthèse, bébé dans l'intimité. Bizarrement, quand Denelle a appris le décès du bébé, elle avait l'air de s'être beaucoup calmée tandis que David était dévasté puis il tenait le bébé dans ses bras en le berçant. Pendant ce temps, Michel a repris conscience sur le sol de la chambre, était seul, mourant puis ensanglanté. Son premier réflexe a été de vouloir se lever, mais elle a aussitôt ressenti une douleur intense dans son ventre. En le regardant, elle a pu s'apercevoir de l'incision, puis elle a remonté ses pantalons en réfléchissant à un moyen de sortir de là. Elle savait pas si Denelle était encore dans la maison ou non. La première chose qu'elle a faite, ça a été de se lever pour aller bloquer la porte, mais vu son état, ses jambes n'y ont pas suivi, fait qu'elle est tombée. C'est là qu'elle a senti quelque chose couler dans ses pantalons, puis elle s'est rendue compte qu'elle pouvait sentir ses intestins à l'extérieur de son corps. Fait qu'en tenant ses intestins dans ses mains, Michelle, elle a rampé jusqu'au lit, puis elle s'est couchée sur le dos. Elle a pris son téléphone, puis elle a essayé de mettre son manteau en même temps, mais heureusement, son doigt a glissé sur le bouton d'urgence, puis elle a réussi à faire le 9-1. Elle avait même pas remarqué à ce moment-là que son bébé était pu dans son ventre. Je vous fais entendre l'appel 9-1.
911, address of your emergency.
1620 Green Place.
I can't understand the street.
Green Place.
Green like the color?
Yeah.
What's the phone number you're calling me from? Okay, what tell me what happened.
She cut me.
Who cut you?
Downstairs, I don't know.
Okay, hold on.
Responded to.
Hang on.
Hold on. Please. I'm downstairs.
Okay, who cut you?
This girl I responded to was trying to break up.
What did she cut you with?
A knife. I'm pregnant. She cut me in my stomach. Okay. I'm afraid.
She cut you in your stomach?
I'm pregnant.
Okay. What is the suspect's name?
I don't remember.
What's your name? Hang on, okay? I'm gonna take this. She is.
I'm bleeding out.
I know you need to stay on the phone with me, okay? I'm getting everybody to you, okay? I know, you stay with me, okay? I got everybody coming to help you. You stay on the phone. Don't hang up. 2102, 2121 to 1620 Green Place, 1620 Green Place for a stabbing. Matt Page, Lincoln 13, 2014-43. I can't understand. What is your name, okay? You're going to stay on the phone. Can you grab a towel or anything you can get in your hands and put it on your wound and press? How far along are you?
7 months.
7 months? Okay. Are you alone in the house?
No.
You stay with me. Don't go to sleep. You stay with me. You're downstairs in the basement. And are you alone?
Yeah.
Okay.
I locked the door.
Thank you. Michelle, don't you go to sleep, okay? You stay on the phone with me. Can you tell me, did she have any other weapons besides a knife?
She broke a glass.
She broke a glass? Did she stab you with the broken glass also?
Yeah. Okay.
Michelle, you need to think real hard and tell me who it is that did this. Tell me the person's name. Think real hard, okay? Don't go to sleep. Stay with me. Tell me who it is.
I don't know.
You don't know? Have you? Did she break into the house? Does she live there?
No, it's her house.
It's her house. Okay. So you're a renter there, and she's the owner of the house?
No. I just wanted to try to go sad.
Okay. Everybody's headed your way. Okay. Can you spell your last name for me?
No.
What? Do you have a towel on?
Yeah. How long?
They're on their way, okay? I need you to take a towel and put it on your wound. How many wounds do you have?
No. She just went off.
More than one?
Oh, yeah.
Okay.
Help.
Everybody's on their way, okay? Was anyone else in the house when this happened?
Mm-mm.
No? Just you and her? Were you having a fight?
Mm-mm. I was leaving.
You were just trying to leave?
Mm-mm.
How old are you?
26.
26? Can you tell me what apartment number are you in, Michelle?
1620.
1620? Is it A, B, C, or D?
It's like the first one on the row.
They're on their way. They're 1620 Green Place, like the color. Okay. You stay on the phone with me, okay? Don't go to sleep. We got everybody in the way. They're trying to find you now. Okay.
Are they ringing the doorbell? She cannot get to it.
Help.
Okay, you hang with me. Don't hang up. Are they in the house yet?
She's downstairs.
Yeah, they're here. They're here.
Okay, I'll let you go.
Les policiers ont été les premiers à arriver sur la scène. Le premier à avoir eu contact avec Michelle a dit que quand il est arrivé, Michelle avait du sang de la tête aux pieds, puis il y avait du sang partout dans la chambre. Il a aussitôt accouru aux côtés de Michelle en lui demandant c'est quoi qui s'était passé, puis si elle était blessée. Elle lui a répondu en seulement pointant son ventre. Le policier a tiré comme sur le tissu du pantalon, un pantalon de femme enceinte, puis a pu voir que ses intestins étaient plus à l'intérieur de son corps. Les ambulanciers sont arrivés, puis ont pris Michelle en charge, puis l'ont amenée à l'urgence. Au même hôpital où Dinell et David étaient. En sachant qu'une femme enceinte blessée gravement s'en venait, les employés de l'hôpital ont emmené David et Dinell ailleurs pour pas les traumatiser plus qu'ils ne l'étaient déjà. David en a profité pour aller chercher les filles de Dinell à l'école, laissant Dinell seule avec le corps du bébé. Juste avant de rentrer en salle d'opération, Michelle a donné son code de téléphone au policier pour qu'il puisse trouver qui avait fait ça, parce qu'elle se souvenait plus du nom. L'opération de Michelle a duré environ 5 heures et le docteur a dit qu'elle avait perdu la moitié de son sang. Le chirurgien a dit que l'incision sur le ventre de Michelle était pas si pire que ça, puis que la personne qui l'aurait fait a dû avoir de l'expérience ou regarder des vidéos de césarienne, parce que c'est le genre d'incision qu'ils voient normalement chez des stagiaires de première année. Les policiers ont réussi à avoir accès au téléphone de Michelle, puis ont vite trouvé une conversation entre la victime et Dinell Lane à propos d'une annonce sur Craigslist. Ils ont ensuite été informés que la potentielle suspecte était actuellement dans le même hôpital, puis sont allés la questionner. Les policiers lui ont demandé si elle était seule à la maison durant la journée. Elle a répondu que oui, elle l'était. Les policiers ont informé Dinell qu'une jeune femme ensanglantée avait été retrouvée chez elle et lui ont demandé si elle était au courant de quelque chose, ce à quoi elle a répondu que non, puis qu'il n'y avait personne quand elle avait quitté la maison. Elle leur a dit qu'elle comprenait pas trop ce qui était en train de se passer, puis que son bébé venait de mourir, donc elle vivait déjà beaucoup d'émotions. Les policiers ont continué de la questionner, puis Dinell a répété à plusieurs reprises qu'elle comprenait pas ce qui se passait. Un policier a fini par lui demander s'il y avait des possibilités que l'ADN du bébé soit pas un match avec le sien. Elle a dit non, c'est mon bébé. Quand l'obstétricien est revenu avec les résultats d'examen qu'il avait réussi à faire sur Dinell, il lui a dit qu'elle n'avait jamais été enceinte dans les dernières années et que son plancher pelvien en était la preuve. Soudainement, Dinell a commencé à changer son histoire en disant qu'elle était à la maison durant la journée, puis qu'il y a une femme enceinte qui est venue chez elle pour du linge de bébé, et que sans crier garde, cette femme-là l'aurait attaquée avec un couteau, puis elle aurait commencé à s'auto-poignarder pour aucune raison. Dinell aurait alors été très inquiète pour la sécurité du bébé, vu l'état instable de la mère, fait qu'elle a ouvert le ventre de la mère avec un couteau, puis elle a sorti le bébé. Et même aller jusqu'à raconter que Michelle s'était retrouvée dans la chambre de l'une de ses filles, puis que Dinell n'arrêtait pas de lui dire d'arrêter. Chaque fois que Dinell pensait avoir repris le dessus sur Michelle, cette dernière la frappait encore plus fort. Et même, elle a même dit en interrogation, en pleurant, « Je pense que je l'ai étranglée, je sais pas. » On se débattait puis je criais pour que les voisins m'entendent et j'essayais de prendre son cellulaire car je n'avais pas le mien et Michelle n'arrêtait pas. Michelle a fini par arrêter de bouger et était inerte. À ce moment-là, Dinell croyait l'avoir tuée. Elle savait que ça pouvait être possiblement dangereux de vendre des choses sur Craigslist si t'étais seule à la maison, mais elle aurait jamais cru qu'une femme enceinte aurait été une menace. Elle a dit qu'elle a coupé l'abdomen de Michelle une fois qu'elle pensait que celle-ci était décédée. Elle voulait pas que le bébé meure à son tour, donc elle a pris le couteau que Michelle avait dans ses mains. Elle a fait une incision, elle a sorti le bébé, puis elle monte avec. Elle est redescendue en bas parce qu'elle trouvait pas son cellulaire, puis c'est à ce moment-là qu'elle a entendu Michelle gémir, puis elle a eu peur, fait qu'elle est remontée en haut. Les policiers ne pouvaient pas collaborer sa version des faits parce qu'il y a trop de questions qui restaient sans réponse. Comme, pourquoi ne pas avoir appelé la police? Pourquoi ne pas avoir dit à David à propos de l'attaque? pourquoi avoir prétendu que le bébé était le sien. Denelle a finalement été arrêtée pour 9 chefs d'accusation, dont tentative de meurtre au premier degré, et pour avoir illégalement mis à terme une grossesse. Malheureusement, Denelle n'a pas pu être arrêtée pour le meurtre de bébé Aurora. Pourquoi? Parce que, selon l'autopsie, il n'y avait aucune évidence que le bébé avait pris sa première bouffée d'air. Donc, selon le médecin légiste, le bébé n'était pas en vie avant de sortir du ventre de sa mère. Puis la loi au Colorado stipule qu'un meurtre est l'action de tuer une personne par une autre personne. Il définit une personne comme étant un être humain ayant vu le jour et ayant été en vie au moment du meurtre, et ça, ça ne comprend pas un fœtus. David avait cru voir le bébé respirer quand il l'avait pris dans ses bras, mais en fait, le bébé avait la bouche ouverte, puis il a cru le voir respirer. Le procès a duré 3 jours, puis la défense n'a même pas argumenté sur si Denelle avait commis les actes ou non. Elle a finalement été reconnue coupable pour tentative de meurtre au premier degré, agression armée au premier et deuxième degré, et terminaison illégale d'une grossesse, puis elle a écopé de 100 ans de prison. Elle a pu être reconnue coupable pour tentative de meurtre au premier degré parce qu'ils ont pu prouver que c'était prémédité avec l'annonce de Craigslist et avec l'historique de recherche sur son ordinateur, avec entre autres une recherche sur qu'arrive-t-il au col de l'utérus après l'accouchement. L'ex-mari de Denelle, Jason Cruz, a dit en entrevue que quand il était avec elle durant ses 12 années, était un être humain complètement normal. Il n'aurait jamais cru qu'elle aurait été capable d'une telle monstruosité, que pendant ces 12 années-là qu'ils ont été mariés, ils ont été heureux, puis ils n'ont jamais eu aucun problème en particulier, puis ils ont décidé de mettre un terme à leur mariage de façon amicale. Pour ce qui est de Michelle Wilkins, ses blessures physiques n'ont pas pris de temps à guérir, puis elle a pu se remettre au sport rapidement. Cependant, il s'agit d'un long chemin vers le deuil. Selon elle, le deuil est un chemin et non pas une destination. Elle dit que guérir est possible, mais ça ne voudra jamais dire que ça va disparaître à 100%. Elle a aussi mentionné, et je cite, « Le deuil de ma fille ne s'en ira jamais. Mais il y a des moments où ça fait moins mal, je m'effondre moins sur le poids du deuil qu'il y a 4-5 ans. » Elle a décidé que la façon dont elle voulait traiter son trauma était de bouger, faire de l'exercice, danser, aller en thérapie, faire du bénévolat pour la communauté, puis découvrir de nouvelles passions comme faire du vélo. Je cite encore l'un de ses messages. « C'est ce que je pense être la différence entre être pris dans une boucle de traumatisme et être submergé par le traumatisme. Lentement, mais sûrement, il est possible de vraiment trouver votre terrain afin de ne pas être submergé, mais tout en le reconnaissant et en étant honnête. Cela a été un long processus et ça va continuer de l'être, et je ne prévois jamais un jour où je ne pleurerai plus ma fille ou où je ne serai pas impactée par cette expérience. » Aux dernières nouvelles, selon la bio Instagram de Michelle, elle serait devenue thérapeute en traumatologie somatique. Vous pouvez aller voir sur internet si le cœur vous en dit. Il y a plusieurs vidéos concernant le procès et des reportages sur l'histoire de Michelle Wilkins. Pour ce qui est de l'appel 911, vous pouvez même aller voir le témoignage de la répartitrice 911 qui a pris l'appel. Je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode. La répartitrice est restée très directe dans ses questions parce qu'elle a vite compris que Michelle était vraiment faible, fait qu'elle lui pose des questions à courte réponse. L'important, elle veut avoir l'adresse. Elle veut être sûre. Fait que pour être sûre qu'elle a bien compris le bon nom de la rue, elle demande comme « green like the color », vert comme la couleur. Au lieu de juste la faire répéter la même question, ce qu'on a tendance à faire parfois. Elle demande son numéro de téléphone, comme ça si la ligne coupe, pour quelque raison que ce soit, elle va pouvoir la rappeler ou la trianguler. Elle la rassure souvent, puis elle demande de rester en ligne puis pas s'endormir surtout. Elle essaie d'avoir le plus d'informations possible, mais c'est vraiment difficile pour comprendre ce que Michelle dit parce qu'elle est vraiment faible. On se souvient qu'elle perdait la moitié de son sang. Elle se souvenait plus non plus du nom de la personne qui avait fait ça, donc la répartitrice ne pouvait pas faire de recherche là-dessus, mais avec l'adresse de la maison, au moins elle pouvait voir qui était propriétaire. Elle demande si elle est blessée puis où elle est blessée, puis pendant que la répartitrice prend les informations, ses collègues répartissent l'appel aux policiers et on peut les entendre un peu en arrière-plan. La répartitrice a vraiment fait un bon travail durant les 5 minutes de l'appel, pour vrai. Elle veut pas que Michelle s'endorme, fait qu'elle pose plein de questions, même, mais qui sont quand même pertinentes. Elle lui répète que les secours sont en direction, puis qu'il essaie de la trouver, puis Michelle lui répond qu'elle entend sonner, puis qu'elle est en bas. La répartitrice donne l'information à ses collègues et la police arrive quelques secondes plus tard. C'est fou comment cette histoire-là est traumatisante personnellement. Comme on n'est pas aux États-Unis, mais juste avec Marketplace sur Facebook, on peut voir tellement de choses étranges. Michelle avait tellement l'air d'une bonne maman déjà, puis on regarde des entrevues, puis elle a vraiment l'air d'une belle et bonne personne. Pour qu'elle dise à son agresseur « je t'aime », comme il faut du courage en maudit. En plus, elle a précisé dans une entrevue qu'elle avait pas dit ça pour essayer de manipuler Denelle. Elle le pensait vraiment à ce moment-là. Puis cette femme, elle a été courageuse du début à la fin, puis son visage devrait être à côté du mot courage dans le dictionnaire, à mon avis. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Ça me rend tellement heureuse chaque fois que je regarde combien vous êtes à écouter le podcast. C'est vraiment un rêve devenu réalité. Gênez-vous pas si vous avez des suggestions de cas concernant des appels 911. Vous pouvez m'écrire n'importe où. Puis n'oubliez pas de suivre le podcast sur les réseaux sociaux, si c'est pas déjà fait, au 91 Behind the Scene sur Instagram et Facebook et Patreon, ainsi qu'au Marie-Ève91-2-bas sur TikTok. Gênez-vous pas pour venir me parler. J'aime vraiment ça discuter avec vous. Puis on se reparle très bientôt. Bye!